Micro Méga.
Caroline Lachowski.
Jean-Yves Casga. Micro-méga suite à la science en trois dimensions et en trois parties sur RFI. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour un temps X, en compagnie non pas d'un mais de deux invités multifacettes. S'agit-il de double, l'un étant une facette de l'autre? Réponse tout de suite dans Micro-méga version science-fiction. Micro-méga. Bonjour Jean-Yves Casga.
Bonjour Caroline.
Alors heureusement, nous aussi, nous sommes deux, un double mixte même, face à nos deux invités multifacettes. Mais qui sont-ils donc?
Précisément très 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 multifacettes, parce qu'ils auraient pu être Indiana Jones, mais en vrai. Ils auraient pu être Indiana Jones, mais ce qu'ils sont devenus en fait, dans la démarche intellectuelle, dans la prospection, dans essayer d'approfondir le futur. Ils auraient pu aussi être des comiques. On ne connaît pas du tout cette facette. Ils auraient pu aussi être de super musiciens, et d'ailleurs musiciens comiques, parce que non seulement ils maîtrisent bien l'instrument et la musique, mais en plus ils sont assez drôles. Ils auraient pu être imitateurs, et puis pas de chance, ils ont d'abord fait beaucoup d'études, et donc ce sont des chercheurs. Mais comme ils sont toujours restés Indiana Jones dans la tête, c'était pas assez de faire de la recherche. Donc du coup, ils sont devenus saltimbanques. Et si vous écoutez bien ce qu'il y a en fond musical, les deux saltimbanques, ce sont deux jumeaux, les Bogdanov.
Igor et Grishka Bogdanov. Alors au-delà des personnages médiatiques que vous êtes, il y a une chose qui vous intéresse tous les deux, c'est le temps. Remonter le temps jusqu'au commencement du temps, pour reprendre le titre de votre dernier livre, faire de la science-fiction et des projets sur le futur. D'où vous vient à tous les deux cette fascination pour le temps?
Cette fascination pour le temps, elle remonte à nos 4 ans. Nous étions à ce moment-là dans un village, nous sommes nés dans un endroit qui est assez particulier, qui lui-même situe tout à fait la problématique du temps. C'est un château que ma grand-mère avait acheté en 1927, et nous sommes nés dans les murs. Et en fait, en nous promenant entre 3 et 4 ans sur les remparts...
Igor, il faut préciser qu'on est dans le Gers, que
dans
c'est
salarié,
exactement. On est vraiment loin de tout quand même.
Hein. On est loin de tout, on est en fait en pleine campagne.
Ouais.
Et dans cette campagne-là, qui est habitée par quelques Gascons, et puis notre famille, notre père russe, notre grand-mère autrichienne, notre mère moitié américaine, moitié autrichienne, nous explorons le monde. Et on explore le monde d'abord en se promenant dans un endroit comme celui-là, qui est tout à fait étonnant, qui est tout à fait unique. Et nous nous sommes posé la question, à quoi ressemblait cette tour, cette échauguette, ces mâchicoulis il y a 1000 ans? Et à quoi ressembleront-ils dans 1000 ans? Donc, à la base de ces questions, il y a un vertige sur le temps. Et c'est de là, je crois, que vient notre fascination pour le voyage dans le temps.
Et d'où le titre de votre émission télévisée qui vous a rendu célèbre, Temps X.
Oui, absolument. Temps X,
là, c'est Grishka.
Vous avez vu la différence de voix.
Hein. Grishka, il a une voix mieux timbrée que moi.
Non, pas du tout. Si. C'est une voix, en fait, qui est un peu plus portée. Elle n'est pas mieux timbrée, elle est différente. Et en fait, Igor a des résonances dans les basses que moi, je n'ai pas. J'ai des résonances un petit peu plus élevées dans les aigus. Donc, du coup, on nous différencie très bien, hein, vous qui nous entendez là en ce moment. Oui, Temps X, effectivement, c'est l'inconnu du temps. Le X est là pour nous rappeler que nous glissons effectivement sur un fleuve, que nous venons de très loin et que nous allons très loin. C'est le grand voyage de l'humanité. Nous avons tenté effectivement de résumer l'esprit de ce voyage en adjoignant à ce grand rêve du temps l'inconnu de la destination.
Alors ça, c'est pour Au commencement du temps, c'est l'ouvrage qui est paru chez Flammarion, mais les jumeaux Bogdanov, on sait qu'ils ont soutenu une thèse d'astrophysique, chacun, et que la question fondamentale de cette thèse, là, c'était pas de nous faire rêver, nous, lecteurs potentiels, c'était se demander s'il y avait un début avant le début, en gros, c'est remonter au temps zéro, juste là, au tout début du Big Bang, et ça a défrayé la chronique, ça. Hein,
parce que... Ça a même fait controverse.
Ça fait une très grande controverse, qui a démarré il y a déjà maintenant plusieurs années, et qui va probablement pas s'éteindre de sitôt. Pourquoi ? Ben, pas simplement parce que c'est Igor et Grishka qui sont entrés dans cette arène avec leurs amis des fameuses combinaisons de temps X et qui donc effectivement viennent avec l'auréole de la télévision pour faire de la recherche, mais parce que le sujet que nous avons décidé d'investir, d'explorer à fond, est un sujet qui, à tort, je crois, est aujourd'hui rejeté aux marges de la science. Qu'est-ce que c'est que ce sujet ? C'est pas simplement de s'interroger sur le Big Bang. Le Big Bang, toute la communauté scientifique est d'accord aujourd'hui pour dire que l'univers a commencé sous une forme explosive, c'est un mauvais mot, mais enfin ça décrit un petit peu la situation d'une expansion qui commence il y a 13 milliards 700 millions d'années. Toute la communauté scientifique est d'accord et nous ne sommes pas en contradiction avec nos collègues lorsqu'ils soutiennent qu'effectivement, l'univers était très petit, très dense, très énergétique, très chaud, à cette époque très lointaine qu'on appelle le temps de Planck. Simplement, là où nous ne sommes pas d'accord avec les scientifiques, c'est quand ils nous disent « il est impossible de remonter en deçà ». Parce que la question que nous nous sommes posée, Igor et moi, elle est évidente, c'est « puisque nous parlons d'une particule élémentaire qui va exploser et engendrer l'univers tout entier, qui était très petite, la particule de Planck, cette particule, d'où vient-elle ?» Lorsque les scientifiques nous disent que c'est peut-être une fluctuation du hasard, c'est le vide quantique qui a engendré cette particule élémentaire, on ne peut pas effectivement poser aujourd'hui un regard raisonné et raisonnable sur l'avant Big Bang, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'il y a effectivement avant le Big Bang un autre monde à explorer. Avant le temps de Planck, il y a un autre état de l'espace-temps que nous pouvons appeler le pré-espace-temps, qui est d'une extrême richesse, mais qui est extrêmement différent. Et c'est cette différence que nous avons voulu explorer et bien comprendre. Et là, nous l'avons fait, non pas en physicien, parce que ce n'est pas en physicien qu'on peut poser effectivement un regard et apporter des réponses nouvelles, c'est en mathématicien. Car, au fond, s'il existe un moyen de remonter en deçà de ce fameux mur de Planck, c'est uniquement en utilisant des instruments mathématiques et en remontant, évidemment, au long de cette ligne d'univers qui commence bien avant, on arrive jusqu'à l'instant zéro, mais grâce aux mathématiques.
Alors, comment on devient les Bogda, puisqu'on vous appelle comme ça, les Bogda 9, pourquoi on s'intéresse au ciel ? Parce que moi, je sais que dans le château, il y avait une bibliothèque insensée. Comme dit Igor, oui. Souvent, c'était pas Alexandrie, mais pas loin.
C'était pas loin parce qu'il y avait à peu près entre 10 et 15 000 ouvrages qui étaient accessibles dans cette immense bibliothèque qui était donc construite sur les quatre faces, si on peut dire, de l'endroit dans lequel elle avait été établie. Et donc, Grishka et moi, nous nous sommes promenés dans ce savoir qui était là, à portée de main. Et c'est là que nous avons feuilleté. À l'âge de 4 ans, c'était au mois de juin, je me souviens très très bien de cette date-là, parce que nous avions eu la rougeole en même temps. Donc on était cloués au lit, et donc on est monté dans la bibliothèque, qui était au-dessus de notre chambre. Là, nous avons trouvé une encyclopédie qui s'appelait « Le ciel » de Flammarion, qui était une encyclopédie de l'époque, que nous avons ouverte, et là, émerveillement, nous avons trouvé des photos extraordinaires de galaxies. Nous avons découvert aussi là, pour la première fois, une représentation de ce que pourraient être les habitants de Mars, vus et décrits par un scientifique, sur la base des descriptions qui ont été proposées par Wells. On a voyagé, si on peut dire, dans le temps, à même les pages que nous tournions les unes après les autres, et cette fascination-là, eh bien, elle ne nous a jamais quittés. C'est-à-dire qu'elle nous a accompagnés dans d'autres livres, d'autres discussions avec notre grand-mère nous ont initiés aussi au spectacle du ciel. Je me souviens d'un jour où nous nous sommes retrouvés, grâce à notre grand-mère qui nous a réveillés à 4h du matin, pour nous sommes retrouvés sur les collines qui surplombent le village, pour assister pour la première fois au lever du soleil. Et ça, c'était extraordinaire pour nous, parce que c'était le spectacle du monde, le spectacle de l'astronomie, que nous avons vécu, là, Grishka et moi, nous avons été les témoins, commentés par notre grand-mère. Du coup, c'est vrai que ce lever de soleil a allumé quelque chose dans notre tête qui ne s'est jamais éteint.
Vous écoutez Microméga sur RFI avec les frères Bogdanov, Igor et Grishka. Moi, j'ai envie de vous demander à tous les deux, comment est-ce que vous vous définiriez, parce qu'au fond, on vient d'entendre parcours complexe, très riche, votre fascination pour le temps, entre science-fiction et réalité, vos personnages aussi de jumeaux, de doubles, fantasques, savants et médiatiques, troublent un peu, comment dire, le tableau. Comment vous vous définiriez, vous?
Ah,
le point le plus obscur est toujours sous la lampe.
Oui, c'est vrai, on peut pas être dans la montagne.
Le point le plus obscur est toujours sous la lampe. J'ai bien entendu.
Absolument, et ou être dans la montagne et la voir en même temps, c'est difficile. Mais d'un autre côté, la jumélité nous a donné une façon de, on va dire, installer un rapport à l'image qui n'est pas le même que les individus solitaires. Les individus solitaires, ils ont une grande épreuve à traverser quand ils passent au-delà des 2 ans. C'est ce qu'on appelle le stade du miroir en psychanalyse. Le stade du miroir, c'est se voir dans un miroir et tout d'un coup découvrir que celui que l'on voit n'est pas soi. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une séparation entre le je et le moi. C'est pas du tout ce que nous avons vécu, Igor et moi. Parce que le fait d'être déjà, même avant la naissance d'ailleurs, dans un rapport d'image qui est exactement le même que soi, mais évidemment séparé
avec lequel on peut jouer.
Avec lequel on peut jouer, puis avec lequel
quand même,
on
c'est
peut
pas un miroir,
se représenter.
La Grishka, vous avez Igor en face
mais
de vous.
Mais c'est justement ça qui est très, très important.
C'est intéressant, oui.
Parce que le miroir, d'abord, il ne renvoie qu'une image, et puis cette image, en plus, est inversée. Donc, c'est une inversion, finalement, de tous les codes. Alors que là, on se voit, effectivement, tel que l'on est en réalité. Donc, je pense que le rapport au réel est très différent, et ça débouche sur une capacité du sujet que nous représentons de ne pas être objectivé. Donc, on n'est jamais objet, on est toujours sujet. Et d'autre part, cette façon d'être pleinement sujet vous coupe de ce que les individus solitaires éprouvent souvent, qui est une forme d'angoisse d'être complété par un autre. Donc, de chercher le couple, de vivre des aventures qui sont très complexes pour séparer effectivement le fameux objet du sujet et créer un rapport idéal avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, nous n'avons pas effectivement à subir ça. Je pense que ça nous a apporté une complétude et donc une joie d'être, une joie unitive, comme disait Roland Barthes, qui est supérieure à celle des sujets solitaires.
Alors, est-ce que c'est vrai que parfois, au cours de soirée, vous prenez des banjos et que vous commencez non seulement à jouer et à chanter très bien, mais en plus en imitant des voix de personnages célèbres?
Ah, ça nous arrive souvent. En effet, de prendre des banjos, de la guitare espagnole, par exemple, parce que c'est vrai qu'on imite beaucoup le flamenco, enfin, toutes ces promenades musicales. Pas seulement musicales, mais aussi des promenades dans le monde de la poésie. On connaît pas mal de poèmes et on en récite. À la demande, d'ailleurs, de ceux qui nous connaissons bien, nous disent, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Donc, en effet, on a toujours un spectacle un petit peu improvisé, quand même, parce que on est en effet très souvent amené à imiter des personnages, par exemple des paysans du Gers ou
des gens comme ça. Alors on pourrait avoir un petit aperçu là, c'est possible.
Oui, on pourrait par exemple continuer cette interview en patois gascon parce qu'on le parle.
Si vous voulez, oui.
Et pas le problème, le premier corps que vous parlez quand même, et même Rémi. Di Giao Maitin, que sono passati dall'alta costa dell'Austero e là ho visto tutti perché sono completamente splendidi. E ve lo dico piuttosto che. E voi sapete chi mi ha risposto?
Non, pas du tout, Igor, j'ai pas compris du tout.
Il m'a répondu, j'écoute de la radio, et parmi ces émissions de radio, il y en a une qui est très très bonne, c'est Micromégas.
Eh oui. Micromégas. Salut Caroline.
Salut Jean-Yves.
Eh oui.
Eh ben, vous avez bien fait de venir, hein.
Joli numéro.
Alors, à part ça, parce qu'ils savent aussi avoir le sens de l'anticipation, mais on peut s'en douter. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais ça devait être 80, 82, par là. Vous avez inventé un terme qui était Internex, pour définir un grand réseau mondial informatique qui permettrait de transmettre de l'information, et en fait ça s'appelait Internet. D'ailleurs, vous seriez très très riche si vous aviez déposé le bon mot. Comment c'est arrivé de penser à Internex par rapport à
assez simple, en fait. Ouais. C'était le 1er janvier. On était en direct, donc, avec Torix sur TF1 à cette époque-là, en direct. Et on s'est dit, ce 1er janvier, on a eu la chance que ce direct tombe un samedi, 1er janvier 1980. En plus, c'était symbolique parce qu'on passait de 79 à 80. Donc, il y avait quelque chose d'assez fort. De 80, on était en deux enjambées à l'an 2000. Et on s'est dit, mais pensons l'an 2000, pensons ce qui va se passer à l'an 2000. Et on s'est concerté, Igor et moi, c'était 10 minutes avant l'émission, en disant, on va essayer de trouver un mot qui correspond à l'idée de connecter tous les sujets, de créer une interconnexion. Et c'est comme ça.
Ah, c'est pour ça que c'était Nex.
C'est pour D'accord. ça que Nex. Donc interconnex, donc internex.
C'était un aspect visionnaire ou non c'est...
Non, parce qu'en fait, quand on réfléchit un petit peu, comme nous, par passion sur la science et ses développements futurs, ses développements probables, eh bien, on est amené à anticiper naturellement, je crois, sur l'évolution de la science. Et pour nous, en effet, il était évident que les ordinateurs devaient se connecter entre eux. C'est évident. Et on s'est dit, voilà, il arrivera un jour où il ne s'agira pas simplement de connecter un ordinateur qui est situé dans le salon avec celui qui est situé dans la salle à manger. Il faudra connecter des ordinateurs très distants. Et donc, les utilisateurs vont correspondre les uns avec les autres. Et c'est comme ça qu'en effet, on s'est mis d'accord, je crois, et moi, sur les d'interconnexion.
Mais d'une manière générale, puisqu'on parle de science dans cette émission, il faut dire que la science transforme le présent, mais vit dans l'avenir.
Et alors, notre avenir, justement, qu'est-ce que vous voyez là, vous les deux, qui êtes si visionnaires que ça, c'est quoi?
Parce que la situation...
Moi, j'ai tendance à dire que nous vivons une époque extraordinaire, absolument formidable, parce qu'elle nous place en face de transformations qui sont gigantesques et qui vont être décrites par ce que l'on appelle dans le jargon scientifique justement singularité technologique. Nous sommes à peu près une vingtaine d'années de la singularité technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une singularité technologique ? C'est la convergence, c'est la rencontre convergente entre plusieurs courbes qui sont a priori éloignées les unes des autres. Alors ces courbes éloignées, on peut en prendre quatre qui sont très importantes. La révolution spatiale, la révolution informatique, intelligence artificielle et communication en général, donc on parle d'internex, la révolution biologique et la révolution énergétique, disons, préservation de l'environnement, etc. Donc, ces quatre courbes vont converger. Lorsque, par exemple, si on en prend deux d'entre elles, lorsque toutes les ressources et cette formidable puissance de calcul qui est liée aux nouvelles générations de calculateurs aura intersecté les sciences biologiques et vont créer effectivement à ce moment-là une accélération extraordinaire, exponentielle du progrès dans le domaine de la biologie, on peut répondre sans prendre de risque que dans les 20 ans qui viennent, on va assister à un déplacement gigantesque de ce qu'on appelle l'espérance de vie, actualisée ou actualisable, mais peu importe. L'homme vivra probablement entre 150 et 200 ans d'ici.
Ce seront des mutants.
Ce seront des mutants, mais attention, on vieillira jeune. C'est pas du tout la même chose que vieillir
en bonne santé. Quoi.
En bonne santé.
Partout sur la planète.
Partout sur la planète.
Non, peut-être pas. Théoriquement, pas pratiquement.
Théoriquement.
Parce que en effet, l'accès à ces technologies, qui ne sont pas des technologies très très, d'ailleurs, elles ne seront pas chères ces technologies, mais elles seront peu accessibles dans certaines régions du monde.
Au moins dans un premier temps.
Parce que les systèmes politiques, les systèmes sociaux qui dépendent donc des systèmes politiques, ne seront pas encore prêts à les accueillir. Mais quand on entend par exemple les chercheurs qui aujourd'hui ont consacré leur vie, consacrent leur existence et tous les jours de leur vie aux cellules souches par exemple, et que on les entend décrire de façon très très précise et même vertigineuse les résultats de leurs travaux, on se dit ben oui, on est tout proche de cette singularité dont HK parle, qui va en effet transformer complètement le paysage humain dans lequel on vit.
Et juste avant de vous quitter, parce que c'est la fin de l'émission, au commencement du temps, le livre qui vient de sortir chez Flammarion, et un truc qui est extrêmement original, c'est la façon dont vous avez réussi à le présenter en deux mots. Hein. On part du Trocadéro. Et puis,
on commence un voyage vers le passé de un jour, et puis ensuite de un an, et puis de 10 ans. Et puis
on remonte dans le temps.
C'est la réalisation d'un rêve. On porte tous le rêve de réaliser ce rêve, de savoir mais comment était le monde il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années en arrière, etc. C'est ce rêve-là que nous proposons de réaliser, mais de manière très encadrée, très scientifique. C'est un rêve rationnel.
C'était le rêve des deux jumeaux à Saint-Lary quand ils étaient petits.
Au commencement du temps, c'est le titre de votre dernier livre. Merci à tous les deux, Igor et Grishka Bogdanov. Eh bien Jean-Yves, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, ainsi qu'à tous nos auditeurs, un très bel été.
Eh bien oui, un été studieux et ensoleillé, j'espère, dans cette partie du monde.
Absolument, mais Micro-Méga, ça continue la semaine prochaine, bien sûr, avec Christian Sauty. Et puis ensuite, le retour de Patrick Chompré. Je vous retrouve, chers auditeurs, en septembre, pour de nouvelles aventures scientifiques réalisées par Cécile Bonissi. Merci Cécile. À la technique, Thomas Ferrière. Merci Thomas. Et dans quelques secondes de temps X, les informations sur la Radio Mondiale.